Salut, ici Lucien Roy, spécialiste de l'accomplissement quotidien, et on se retrouve dans une nouvelle interview avec Nico Penn. Salut Nico.
Salut Lucien, merci pour l'interview.
Eh bien écoute, ça me fait plaisir de te rencontrer comme ça, et puis comme d'habitude au début d'interview, je dis toujours pourquoi est-ce que j'ai invité les gens. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Nico avait fait une apparition dans l'interview avec Clément Bergon, et donc suite à ça, on s'était dit, tiens, il faut que j'interview Nico, puis en plus, il est spécialiste d'un outil de connaissance de soi, puis je sais que ça intéresse un peu tout le monde ici. Il y a l'Ennéagramme, donc il va un peu nous parler de ça, et puis à moi aussi, parce que je connais pas trop l'outil. Et puis, en plus, quand on regarde un peu les contenus de Nico, on se rend compte de deux choses qui, moi, me plaisent beaucoup. C'est de la curiosité, beaucoup, beaucoup de curiosité, et puis aussi beaucoup d'énergie, le sourire au taquet tout le temps, donc ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, et puis aussi nous dire pourquoi tu reprends le skate à presque 40 ans, tu vois?
Je crois que c'est la question la plus importante, celle du skate. Et je vois que tu me suis et que tu suis pas mal mes aventures, donc c'est cool. Donc ben, déjà merci pour tout, mais bienvenue, bonjour à tous. Je m'appelle Nico Penn, donc j'ai presque 40 ans. Je suis alors c'est toujours difficile de se définir, et d'ailleurs ça en vient au sujet de l'énéagramme, le fameux qui suis-je vraiment. Donc contextuellement. Donc, je m'appelle Nico Penn, je me définis comme philosophe entrepreneur, c'est-à-dire que je suis un entrepreneur, un vrai entrepreneur, avec une pensée, avec un message à faire passer aux personnes. Je suis également chercheur de vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver la vérité profonde des choses. Et il y a de nombreuses années, je suis tombé sur un outil juste génial qui m'a permis de comprendre des difficultés que j'avais par le passé, des modes de fonctionnement que j'avais à moi, des aussi... Ce fameux truc, quand on regarde des personnes autour de toi, on se dit « mais pourquoi ils fonctionnent comme ils fonctionnent ?» ou « je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut penser ce qu'il pense ». Et cet outil, c'est l'Ennéagramme. Je me suis passionné, mais littéralement, sur cet outil. J'ai mangé tout ce que je pouvais manger. Formation, livre, formation numérique, des rares audios très quasiment invisibles du net. Enfin, bref, j'ai récupéré un maximum d'infos. Et j'étais tellement passionné par cet outil qu'on m'a demandé à un moment donné, je donnais des formations en PNL, je fais de la formation en ligne depuis 2011. Et je vis de la formation en ligne depuis 2011, puisque j'ai une autre activité sur la formation en ligne qui s'appelle le business de la connaissance. Mais pour en revenir à l'Ennéagramme, on m'a dit, tu es tellement passionné, on aimerait que tu nous enseignes ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et début 2017, j'ai fondé la première formation numérique en Ennéagramme. Et depuis, j'enseigne cet outil avec passion, avec amour et voilà, et puis pour aider les gens à évoluer, à changer, à mieux se connaître, à être plus en paix avec eux-mêmes, plus en paix avec les autres. Donc, c'est tout le but de ma démarche.
Top. Et justement, tu as dit des mots importants qui faisaient l'objet de ma prochaine question, parce que je trouve ça vachement intéressant. C'est que tu te définis comme un entrepreneur philosophe. Et moi, je trouve que c'est vrai qu'en étant en ligne, quand tu partages tes connaissances, tu as l'occasion d'apprendre énormément, tu as l'occasion de vraiment développer une pensée intéressante, et c'est un peu pour ça que je le fais aussi. Comment est-ce que tu définis ce truc-là et comment est-ce qu'on peut devenir finalement un entrepreneur philosophe?
C'est une bonne question. Tu sais que j'ai mis longtemps avant d'assumer ce mot philosophe, parce que je me disais, bon, généralement, quand on a la référence du philosophe, c'est quelqu'un qui a un érudit de savoir, qui connaît tout sur Spinoza, Platon, Socrate, Aristote et consorts. Et en fait, pour moi, la chose n'est pas là. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui a un érudit sur un domaine donné. Pour moi, un philosophe, si on reprend la terminologie de base de philosophe, c'est amoureux de la sagesse. Et c'est cette recherche de sagesse, qui va faire que par cet amour-là, tu vas évoluer. Et effectivement, l'entrepreneuriat, on peut le faire pour différentes raisons. Moi, lorsque j'ai démarré l'entrepreneuriat, c'était plus pour, comme beaucoup, pour goûter une certaine forme de liberté, pour vivre de ce qui me passionne. Au départ, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est-à-dire que c'est un objectif que j'ai accompli il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, je suis vraiment missionné par l'entrepreneuriat, et j'ai envie d'apporter mon message au travers de l'entrepreneuriat et de pouvoir contribuer un maximum. C'est vraiment ça mon objectif aujourd'hui. Et je sais que même si ce n'était pas par cette voie-là, ça serait par une autre. Pour en venir au mot entrepreneur, aujourd'hui, dans notre société, c'est une société qui actuellement est un peu vacillante au vu des derniers événements assez critiques. Mais...
C'est vrai que là, on enregistre au moment où il y a la crise du coronavirus. Ouais. Donc pour situer tout ça, pour les gens qui écouteront ça dans 10 ans, ils ne sauront même pas ce que c'est le coronavirus.
Oui, c'est vrai. Mais c'est un moment qui est inquiétant, qui est triste, qui soulève beaucoup de questions. Mais je crois sincèrement qu'on arrive à un moment de charnière où finalement on est dans ce mode où notre civilisation tourne sur l'économie. Et aujourd'hui, par cette situation-là, on voit qu'on est face de nouveau à une crise et aussi à une situation où finalement, comment on va faire pour se soutenir malgré que l'économie est en train de s'arrêter. Et ça pose beaucoup de questions. Donc, pour l'instant, peut-être que vous aurez les réponses lorsque l'interview sera diffusée ou lorsque vous la reverrez. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, et peut-être ça peut être intéressant justement de la voir beaucoup plus tard, cette interview-là, c'est qu'on n'a pas ces réponses-là. Mais pour en venir au mot d'entrepreneur, aujourd'hui, dans notre société, effectivement, la création de valeur, la création de richesse est ce qui permet de délivrer son message. Si on monte 500 ans en arrière, 1000 ans ou 1500 ans en arrière, si je prends par exemple à l'époque de la Renaissance, les philosophes, toutes les personnes qui étaient sur ces types de stature-là, ils diffusaient leur message au travers de mécènes qui les aidaient à perpétuer leur œuvre. Si on prend par exemple, pas un philosophe, mais on prend Léonard de Vinci, il a toujours vécu grâce à des mécènes. Et dans plein de domaines, ça a été ça. Sénèque, à son époque aussi, c'était des conseillers de grandes personnes. Donc, c'est aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pour moi, est la meilleure voie pour pouvoir diffuser son message et jouer un jeu qui est un jeu vertueux. C'est j'ai de la valeur, j'apporte ma valeur et en fonction, et grâce à cette valeur, je reçois un retour, je reçois une récompense financière, fiduciaire de cette valeur que j'apporte. Donc, voilà pour résumer un peu entrepreneur du philosophe. Et puis, dernier point, entrepreneur, c'est que j'adore l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est fascinant. Et c'est une école de développement personnel juste incroyable. Confrontante, très, très confrontante. Faut pas le nier non plus. Mais qu'est-ce que ça te fait grandir?
C'est ça, justement. Je voulais te poser la question parce que toi, t'es vraiment. Enfin, il y a des entrepreneurs qui sont très, très entrepreneurs, d'autres qui le sont moins. Toi, on voit que tu l'es pas mal, mais que t'es quand même. T'as un gros point développement personnel parce que t'entreprends dans ce domaine-là. Donc, ça te permet d'avoir ces deux facettes qui sont bien développées. Comment ça interagit pour toi? À quel point c'est important? À quel point ça se complète? Ou alors, c'est peut-être qu'à des moments, ça s'oppose quasiment, je sais pas.
Alors, ça se complète très bien. En fait. Et ce n'est pas un jugement de valeur, loin de là, parce que ce n'est pas parce qu'on part sur l'axe dont je vais parler là que c'est un axe négatif. Mais certains entrepreneurs vont choisir un business sur lequel ils voient qu'il y a un marché, qu'il y a un potentiel. Ils ne croient pas forcément à leur produit, ils ne croient pas forcément à leur idée ou à ce qu'ils vont apporter. Et ils fonctionnent très bien, certains font des fortunes. Après, on peut parler du domaine d'éthique. Mais si j'enlève le domaine d'éthique, ces entrepreneurs-là, du moment qu'ils contribuent et que ce qu'ils amènent à ceux qui reçoivent le produit ou le service qu'ils donnent, reçoivent une véritable valeur ajoutée, pour moi, c'est OK. Cependant, c'est une voie que je ne peux pas faire, moi. J'aurais pu avoir 10 000 tentations de le faire, mais je ne peux pas. J'ai besoin que moi, l'entrepreneuriat puisse être un support, puisse être l'outil pour amener ce en quoi je crois. Donc, c'est là où finalement... Certaines fois, ça m'est arrivé, il y avait par exemple des formations que je donnais ou des axes sur lesquels j'étais parti. Puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma pensée, dans ma réflexion, dans mon avancement sur moi, eh bien, j'y croyais beaucoup moins. Donc, c'est quelques cas particuliers, mais c'est clair qu'à ce moment-là donné, j'ai dit j'arrête, je ne peux pas continuer à vendre par exemple cette formation ou autre si moi, j'y crois plus. Donc, moi, c'est ma voie. C'est ma voie. Après, c'est toujours pareil. C'est une grande question. C'est est-ce que moi, j'y crois plus parce que j'ai évolué, mais peut-être que des personnes qui sont à un autre niveau vont trouver une utilité là-dedans. Donc, c'est aussi vraiment une réflexion, toujours en fonction du là où tu es toi, n'est pas forcément là où les personnes avec qui tu vas échanger ou tes clients sont. Donc, c'est toujours savoir aussi. où on se place.
Ouais, c'est clair que ce niveau d'empathie-là est important, et pour éviter le fameux syndrome de l'expert dont on parle souvent, parce que sinon c'est dur d'enseigner aux gens qui ne sont pas du tout au même niveau que nous. Et justement, toi, tu as un point intéressant, c'est que tu es quand même entrepreneur depuis 2011 sur Internet. Donc, et la question que je me pose, c'est que moi, j'ai plusieurs clients qui sont entrepreneurs depuis quelques temps, depuis 2-3 ans, qui ont des bons résultats, ça marche. Ouais. Puis 2-3 ans, c'est déjà pas mal. Quand tu vis ton activité confortablement depuis ce temps-là, c'est bien. Mais il reste toujours cette peur sous-jacente, tu vois, que tout s'arrête au bout d'un moment. Et ça, moi aussi, je l'ai, tu vois, hein, de dire, OK, bah, en fait, on reste dans une période où on sent cette instabilité qui fait un peu peur. Et est-ce que toi, justement, au bout de presque 10 ans d'entrepreneuriat sur le web, est-ce que tu sens que ce truc-là a baissé? Est-ce que tu as fait des trucs particuliers pour que ça baisse? Et comment tu vois le truc maintenant?
Alors, baissé, oui, ça a beaucoup baissé. Mais pas pour les raisons auxquelles on peut penser. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir eu des augmentations sur mon chiffre d'affaires, une croissance sur mon activité qui a fait que ça a baissé, paradoxalement, parce que je me suis dit au départ, quand je me lançais, j'ai eu la chance, je me suis donné la chance d'arriver à vivre rapidement de mon activité. Au bout de 6 mois que j'avais créé ma société, j'arrivais à en vivre. Okay. Par contre, j'ai plafonné pendant plusieurs années. J'ai vraiment, vraiment plafonné, et j'ai eu une grosse frustration de ce plafonnement-là. Et un jour, pour simplifier, j'ai eu une croissance. J'ai vraiment eu le avant-après. Et à cette période-là, donc, mes revenus ont vraiment augmenté, pas 2x2, mais quasiment. Et donc, ça a continué. Et ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, là, j'étais vraiment bien, mais j'avais encore cette peur. J'avais encore la peur que tout s'arrête, j'avais la peur que tout redescende. Je vivais plus confortablement, mais j'avais encore cette peur. Puis, 2 ans se sont passés, et j'ai encore un autre step, encore une forte augmentation. Et là, paradoxalement, pareil. Même chose. Encore ce stress, encore cette peur. Et en fait, ce qui était intéressant, ce qui s'est passé, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est pour ça que je tiens à le dire ici, c'est qu'en fait, ça n'a pas été l'augmentation des revenus qui a permis de calmer cette peur que j'avais à moi. Et paradoxalement, ce qu'on n'arrive pas à percevoir quand on n'y est pas, moi, quand je voyais certains avoir ces augmentations-là, je me disais, ouais, mais au moment où il en est, de quoi il se plaît, machin, ceci, cela. C'est qu'en fait, plus tu augmentes ton niveau de revenu, tu as tes moyens qui augmentent et tu as aussi, tu fais des choix, tu prends des risques qui amènent aussi des pertes qui sont plus grosses. Il y a une espèce de proportionnalité qui se fait progressivement. Je ne saurais pas l'expliquer de façon rationnelle, mais je l'ai constaté autour de moi et je le vis. Donc, tu as un peu ça. Et en fait, ce qui m'a permis de dépasser ça, c'est à un moment donné de faire un bilan, de faire un constat sur tout ce que j'avais fait depuis le début de mon activité. Et j'avais fait plein de choses. J'ai testé dans différents domaines des formations, j'ai fait d'autres choses à côté, j'ai fait de la formation présentielle, j'ai fait du coaching. On avait même racheté un plugin WordPress avec des associés en 2012. Et en fait, je me suis rendu compte que quoi que j'ai fait, j'arrivais toujours à retomber sur mes pattes. Et puis j'ai vécu l'évolution, tu vois, j'ai vécu l'évolution blog, puis YouTube, puis les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et il y a vraiment eu des changements de marché, il y a eu vraiment des migrations, il y a eu vraiment des trucs qui ont évolué. Et on peut se dire que quand tu as un truc qui marche, un jour ça peut changer. Et c'est le cas avec le web. Tu te dis, mais comment je vais faire? Et en fait, du moment que tu développes une forme d'adaptabilité, tu débrouilleras toujours. Tu débrouilleras toujours. Et je crois qu'il faut garder, même si c'est difficile, avoir cette sérénité-là, se dire, bon, ben voilà, on peut toujours s'en sortir, on peut toujours rebondir et être juste ouvert à cette adaptabilité.
Un entrepreneur. Toi, c'est peut-être justement cette ouverture, parce que bon, je l'ai dit au tout début, je trouve que tu t'intéresses à plein de choses. Et d'ailleurs, tu n'as pas répondu à la question du skate parce que je ne te l'ai pas reposé, mais oui, on pourra y retourner. C'est vrai. Et c'est vrai que. Tu sembles toucher à pas mal de trucs. Du coup, avoir cette envie d'apprendre aussi, peut-être qui te permet cette résilience finalement où bah, voilà, l'algorithme YouTube change, voilà, t'es pas foutu, tu vas juste faire autre chose et puis ça va marcher. Le plugin WordPress s'arrête, bon bah ok, c'est pas grave, on fait autre chose.
C'est ça, bon, il y a quand même, je vais quand même avoir une bonne dose de flip au moment où ça va arriver, comme tout le
Ouais,
monde.
j'imagine. C'est vrai que j'ai un peu minimisé le truc là.
Faut pas le négliger, non, mais parce que j'aime bien dire aussi le fond des trucs, tu vois, parce que malheureusement, c'est pas suffisamment dit. C'est bien que moi j'aurais aimé avoir ce genre d'info-là, quoi. C'est oui, comme tout le monde, on va flipper, on va être en stress et tout ça. Et puis à un moment donné, on va être au pied du mur et on va se bouger. J'ai une croyance très forte que, en tant qu'être humain, c'est quand on est au pied du mur qu'on se dépasse. Tu vois? Et ça a été prouvé déjà collectivement à différentes périodes d'histoire. Et humainement, je crois que c'est le cas. Après, il y a une autre question aussi qui se pose, c'est est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? Donc, moi, je crois aussi que l'entrepreneuriat amène beaucoup de rêves, amène beaucoup d'espoir, mais il faut avoir une certaine constitution pour pouvoir vraiment être entrepreneur. C'est-à-dire
C'est
que
vrai, c'est intéressant que tu en parles parce que moi, bah, je parle souvent bah, avec mes amis, avec des gens que je rencontre, de ce que je fais parce que bah, on parle de tout ça. Et effectivement, bah, quand j'en parle, je peux pas m'empêcher. Tu vois, je suis passionné, j'adore ce que je fais, c'est trop bien, j'ai l'impression d'avoir gagné le gros lot, tu vois. Et du coup, bah, quand tu le présentes et que tu es passionné, fatalement, tu as un peu ce biais-là où tu racontes tous les trucs trop bien. Et puis, bah, quand tu es entrepreneur, souvent, il y a le côté optimiste qui est là. Du coup, c'est même pas que tu les mets sous le tapis, mais c'est juste que tu les as un peu oubliés, les trucs négatifs.
oui,
Et du coup,
tout
tu
à fait.
présentes ton activité sous un truc qui a l'air génial. Et après, les gens ont envie de faire comme toi, fatalement. Et c'est là que tu dis, ah merde, j'ai peut-être pas dit tout ce qu'il fallait. Parce que moi, j'ai quand même l'impression que c'est vrai qu'il y a tous ces bénéfices, mais en fait, ces bénéfices peuvent être là que si tu es prêt aussi à accepter les coûts qui sont nombreux. Et puis toi, justement, comme tu formes aussi des gens à devenir entrepreneurs en ligne, à vendre leurs connaissances, je voulais avoir ton ressenti là-dessus. Parce qu'effectivement, moi, j'ai l'impression que tout le monde ne peut pas. Enfin, c'est pas dans l'intérêt de tout le monde en fait d'être entrepreneur parce que bah, ça, il y a
Non.
plein de contraintes, il y a plein de trucs.
J'ai un ami qui a été entrepreneur, qui a bien réussi l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il me dit, enfin, il est salarié, mais il a un poste à haute responsabilité, et avec des possibilités de rachat d'entreprise. Tu vois, et on lui dit, pourquoi tu rachètes pas une entreprise, tout ça? Et lui, il veut pas. Il veut pas parce que il sait ce que ça implique derrière. Il n'a pas envie de passer 80 heures par semaine à bosser. Et c'est un choix qui finalement est sain pour lui. Et je vais te dire que lui, il vit 10 fois mieux que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, finalement, l'entrepreneuriat n'est pas forcément. Il y a aussi quelque chose que j'aime répéter. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je crois que cette phrase de dire, bon, mais voilà, échanger son temps contre de l'argent, de ne pas échanger son temps contre l'argent, effectivement, quand on parle d'entreprise, c'est bien de créer des process, de créer de l'automatisation et tout ça, mais échanger du temps contre l'argent, ça peut être une bonne chose. C'est si tu automatises, par exemple, tu vis de l'automatisation et tu vends, je sais pas, une trentaine de formations à 100 euros, et que à côté de ça, eh bien, tu bosses sur un contrat pendant, on va dire que ça va te cumuler, ça va te prendre 2 jours de travail, et tu prends 30 000 euros, ben, des fois, on se dit, ben, finalement, c'est pas mal d'échanger de temps contre de l'argent. Ou
C'est
quand on
ça,
voit.
moi je trouve qu'il y a plein de trucs là-dessus et c'est vrai que j'en parle pas souvent parce que c'est pas mon cœur d'activité, mais j'ai quand même un avis assez tranché là-dessus. C'est que en fait, la question, ça devrait pas être échanger son temps contre de l'argent ou pas, parce que de toute manière, tu échanges forcément du temps contre de l'argent, parce que quand tu crées ton process, ça, il va pas durer pendant 15 ans ton process ou ton
C'est
tunnel de
vrai.
vente ou je sais pas quoi. Il va forcément devoir être refait. Donc, tu échanges quand même du temps contre de l'argent. Peut-être que tu échanges très peu de temps contre beaucoup d'argent, mais c'est que ça reste quand même cet échange-là. Pour moi, il y a un truc essentiel qui est vraiment qui doit rester central, c'est le plaisir. C'est à quel point tu kiffes ta vie.
C'est
Moi, par
clair.
exemple, j'adore faire du coaching. Et si demain tu me dis arrête d'échanger ton temps contre de l'argent, ça veut dire que j'arrête de faire du coaching en one-to-one alors que j'adore ça. Ça n'a pas de sens en fait, dans mon esprit par rapport à ce que je veux faire et le côté plaisir qui est hyper important. Bah ouais, si tu adores créer des process et tout, fonce. Mais si tu aimes l'humain, si tu aimes cette relation un peu plus, ou même faire des interviews, tu vois, ça fait partie de ce truc-là. Bah là, dans ce cas-là, amuse-toi, fais vraiment en fonction de toi et pas en fonction de. Ah là là, c'est pas bien, échanger son temps contre de l'argent, c'est un truc de salarié. Alors, dit en plus avec un côté péjoratif qui n'aurait pas forcément lieu d'être. Mais bon, voilà.
C'est tout à fait ça. Et puis, en fait, ce qui est intéressant aussi d'entrepreneuriat, c'est que tu as mille et une façons d'entreprendre. Et là aussi, je vois. Moi, j'ai un dicton que je rabâche depuis quelques années, c'est tout marche et rien ne marche. C'est-à-dire que tous les systèmes fonctionnent et aucun ne fonctionne. Et en fait, ce qui va être important, et on en vient justement à ces notions de connaissance de soi dont je parlais dans l'énéagramme, d'ailleurs l'énéagramme peut donner des orientations, c'est à un moment donné, c'est ce qui va marcher pour toi, c'est ce pourquoi tu es fait, c'est là où tu es le plus puissant. Si une personne est talentueuse en écriture et qu'on lui dit « Non, mais fais des vidéos de YouTube, c'est ça qui marche aujourd'hui », mais c'est une connerie, Ouais. Donc, c'est arrivé, y a tellement de choses qui peuvent marcher que finalement, on peut arriver à trouver sa voie facilement, quoi. Et ce chant des sirènes, mais c'est toujours, c'est normal, c'est très humain, hein. On y tombe tous, quoi. Tu vois la dernière promesse, tu te dis « Ah ouais, putain, ça marche, il y a un tel qui a fait 10 000, 5 000 dessus, donc je vais mettre ça », et en fait, peut-être pas, quoi.
Justement, on peut directement aller à l'énéagramme. C'est comme tu dis un outil de connaissance de soi. Donc pour donner un peu de contexte, pourquoi on peut utiliser l'énéagramme et qu'est-ce que c'est en fait?
Alors pourquoi, j'ai envie de dire pour tout. Vraiment pour synthétiser, ouais, pour tout. Alors l'énéagramme, pour l'expliquer, il faut que je remette vraiment sur le contexte. C'est quoi l'énéagramme? C'est un outil de profilage de personnalité qui traite de, on va dire 9 profils, mais moi je préfère parler de 9 familles de personnalités. Et un peu comme notre famille à nous, personnelle, ou notre pays, eh bien, on a une culture commune, on a un mode de fonctionnement, un mode de pensée, des croyances communes. Eh bien, l'énéagramme, c'est un peu ça. C'est-à-dire que très jeune, on va développer, par rapport à une peur fondamentale, une forme de croyance, de façon de voir la vie, de façon d'interagir avec le monde. Et comme on l'a fait très petit, eh bien, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a vécu va confirmer cette peur de base. Donc, c'est une structure de la personnalité qui est très, très profonde. Et là, ça me permet vraiment d'enlever d'un revers de la main quelque chose qui est, est-ce qu'on peut changer d'un profil de l'énéagramme dans notre vie? Non. C'est une famille de personnalités, on appartient à une famille et on va évoluer dans cette famille. Certains vont évoluer plutôt négativement, ce qui peut amener parfois jusqu'à certaines pathologies, d'autres positivement. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement de l'énéagramme. Alors, ça peut aider dans quel domaine? Comme je te disais, dans tous les domaines. Premièrement, il y a vraiment 2 axes, c'est soi et les autres. Si on prend les autres, on va commencer par les autres. C'est si je commence à comprendre, à découvrir les profils énéagrammes des personnes autour de moi, de certains de mes clients, de certains de mes proches, de mon conjoint ou ma conjointe, de mes enfants, de mes parents, eh bien, je vais savoir quelle est leur façon de voir le monde. Et je vais me rendre compte qu'ils ne voient pas les choses de la même façon que moi. Et du coup, je vais pouvoir améliorer la communication. Tu parlais de coaching tout à l'heure. Si la personne que je coach, eh bien, elle a un profil 3, par exemple, elle va être très orientée sur les objectifs, sur la performance, sur l'action. Par contre, si elle a un profil 4, elle va rechercher à être alignée avec elle-même, à rechercher comment exprimer son authenticité. Donc, en fonction du profil énéagramme, je ne vais pas proposer les mêmes choses. Et aussi, je vais savoir quels vont être les points confrontants pour la personne. Et du coup, je vais pouvoir apporter un coaching qui va être beaucoup plus profond et qui va vraiment pas seulement travailler en surface, mais en profondeur à la personne et en justesse. Donc ça, c'est
parce que du coup, tu vas réussir à prendre un peu l'essence de la personne et contourner les obstacles que tu sais qu'elle va rencontrer en fonction de son profil, etc.
C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et même, je vais pouvoir voir quels sont les points de force que cette personne-là va avoir en fonction de son profil. Et agir dessus, tu vois, sur mes coaching business, il y a notamment un client à moi qui, lui, son truc, c'est la connaissance. Donc, il faut que j'aille là-dessus. Je sais que quand je travaille avec lui, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit bien expliqué, il faut que je l'aide à développer ses connaissances. Enfin, tout va être basé autour de ça. Donc, et je sais que le passage à l'action sera plus difficile que sur d'autres profils. Alors que d'autres profils vont aller à l'action facilement. Par contre, il va falloir canaliser un petit peu plus. Donc, tu vois, tu as juste le curseur en fonction et tu prends les qualités en fonction de chacun. Et donc, ça, c'est pour les autres. D'un point de vue business, on parle entrepreneuriat, de l'avatar client, tout ça. Bah, l'avatar client, quand tu as le profil Instagram de l'avatar client, tu peux même adapter, moi je l'ai fait sur certaines pages de vente, le discours en fonction du profil Instagram. C'est utiliser la sémantique qui est spécifiée. Donc là, on est plus la technique copywriting. Et après, le point le plus important, c'est pour soi, pour moi, c'est quand tu connais ton profil Instagram, mais déjà, tu vas connaître tes compulsions par défaut. Tu vas voir, en fait, souvent quand on découvre son profil, on se dit, ouais, mais c'est un peu la merde, mon profil, en fait, par rapport à ceux des autres. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, on voit qu'on met notre prisme sur toute la facette sombre de notre personnalité. Parce que c'est ce qui nous fait chier, tu vois. Et
Bah,
on
c'est ce
voit
qu'on
pas.
voit le plus, quoi. C'est le caillou dans la chaussure et pas la chaussure sans caillou qu'on remarque, hein.
Exact, c'est une très belle métaphore et c'est exactement ça. Donc c'est bien parce que pour reprendre ta métaphore, tu vas voir où est le caillou. C'est-à-dire que pendant un moment, tu as ce caillou qui te fait mal, qui te fait mal, qui te fait mal, et à chaque fois que tu enlèves ta chaussure, eh bien, tu sais pas où il est, tu remets ta chaussure et ça continue à te faire mal. Ou tu crois avoir solutionné le truc. Combien de fois on l'a fait en trouvant une certaine méthode ou certaines techniques ou certaines thérapies, et puis finalement, tu te rends compte que ça ne marche pas. Parce que finalement, le problème est peut-être ailleurs, ou peut-être qu'il est un peu plus en profondeur, et que tu as soigné juste de la surface. C'est un peu comme ben, tu es blessé, tu vas mettre un passe-pain pour te soigner, mais si tu désinfectes pas la plaie, ce n'est pas bon. Eh bien, là, on va pouvoir aller sur la profondeur et vraiment trouver où est ce caillou et l'enlever. Et ensuite, après, l'énagramme n'est pas un remède miracle à tout, qu'on soit clair. Ça traite une strate très profonde de la personnalité, mais il est possible qu'il y ait d'autres choses à côté qui soient à traiter. Donc là, je veux vraiment sortir de la formule magique qui résout tous les problèmes. Mais en tout cas, on va pouvoir soigner les choses qui sont bloquantes dans notre vie de tous les jours. On va pouvoir travailler aussi mieux s'accepter, mieux arriver à gérer au quotidien des choses qui sont très très présentes à nous et qui nous amènent des compulsions émotionnelles très fortes. Donc, on va pouvoir gérer un
Parce
peu mieux.
que, mais du coup, comment ça se passe? Parce que moi, je me dis, enfin, c'est pas très dans la trend où tu dis en fait que, enfin, dans le développement personnel, on dit souvent qu'on peut tout changer, que voilà, que rien n'est fixé, tu n'es pas ton passé, etc. C'est des citations qui reviennent beaucoup. Et là, du coup, toi, tu me dis que il y a l'énéagramme et que ton profil, tu l'as pour la vie. Donc, je sais pas, ça peut avoir un peu ce côté oppressant, mais d'un autre côté, tu me dis que ça nous permet de progresser. Et donc, comment est-ce que ces trucs-là s'articulent ensemble? Et justement, enfin, je veux te laisser continuer sur comment on peut progresser avec ça, comment on peut justement bah, enlever ou diminuer le caillou dans notre chaussure.
Tout à fait. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. On peut pas, sur cette phrase que j'ai entendue beaucoup, et qu'on n'est pas notre passé, parce qu'effectivement, on n'est pas notre passé. Alors, ça, c'est bien, tu vois, pour se libérer des chaînes et lourdeurs du passé et se donner l'autorisation d'aller vers le présent et le futur. Donc, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, on est notre passé aussi. C'est-à-dire que il faut pas oublier que tout ce qui a fait, qui nous a amené même à cette décision de s'affranchir du passé, c'est tout ce qui nous a construit. Et tout ce qui nous a construit est aussi un point de force. Et moi, je vois plus la vie comme, tu sais, dans certains magazines télé, tu as des jeux à la fin, tu as le fameux jeu avec les points que tu relis. Et en reliant tous les points, ça te fait une figure. Et en fait, pour moi, la vie, c'est ça. Si tu fais plein de choses, ça et là, et tu as plein de points, tu sais pas, ça a aucun sens. Et puis tu relis les points, et au bout d'un moment, tu prends du recul. Et tout prend un sens. Et donc, finalement, en fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, même nos blessures du passé et autres, même si on tente de les soigner, eh bien, c'est aussi des points de force. Combien de personnes enseignent dans une discipline qui, finalement, est juste, au départ, quelque chose qui a aidé à leur soigner les blessures. Et ils sont très puissants parce que, comme ils ont été confrontés à ça, ils savent à qui ils parlent, ils savent qui aider. Donc là, déjà, ça donne un peu l'idée de tout ce passé, cet actif-là, tout ce passif-là, et aussi un trésor qui va nous aider. Et après, c'est accepter aussi à un moment donné notre être profond, c'est-à-dire que, effectivement, si tu es un homme, je suis un homme, on pourrait très bien changer de sexe. Aujourd'hui, il y a des opérations qui permettent de changer de sexe, mais en termes d'ADN, sur ton ADN, tu auras toujours un gène d'homme. Donc, il y a des choses qui sont présentes à nous et qui font partie de notre identité, de notre carte d'identité. J'aime bien le voir un petit peu comme ça. Et ces choses-là évoluent. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une notion d'homme ou de femme, tu es un homme, mais tu n'es pas le même homme qu'il y a 3 ans en arrière. Et moi de même. Donc, même si on garde cette même base qui est notre sexe, on a une évolution là-dessus. Et c'est pareil pour tout. Par exemple, j'imagine que tu es de nationalité française.
Ouais.
Donc moi aussi. Là, actuellement, je suis au Chili. Et je suis français. C'est ma nationalité depuis le départ. Mais j'évolue dans ma relation et ma nationalité, ma façon de vivre ma nationalité. Et sur notre profil Enneagramme, ça va être la même chose. On va évoluer sur notre strate de psychologie. Et on peut arriver à des points où, par exemple, je prends nos deux opposés. Tu prends l'abbé Pierre et tu prends Pablo Escobar. Ben, c'est le même profil Enneagramme, sauf que les chemins sont très différents. Ouais. Et ça, je pourrais te le citer sur plein de choses. Tu as un grand penseur, un grand philosophe qui s'appelle Ridu Krishnamurti, qui était un grand sage indien. Il est sur le même profil Enneagramme que Mike Tyson. Donc, qui bouffe des oreilles dans le ring, tu vois. Et tu te dis, what the fuck, quoi. Pourquoi ils sont sur le même profil? Mais en fait, quand tu regardes un peu en profondeur, tu te rends compte que finalement, ce qui motive leur choix et leur façon d'agir, c'est un peu la même strate de fond, sauf que c'est un va choisir de la sublimer, et l'autre, au contraire, va se faire bouffer par celle-ci.
Donc, est-ce que, du coup, à certains moments, on peut avoir... enfin là, je suis pas encore renseigné parce que ton livre sort demain au moment où on tourne cette interview, donc il sera sorti au moment où elle sortira. Donc vous pourrez, enfin je mettrai des liens pour que vous puissiez aller vous le procurer. Le petit livre, il porte bien son nom.
C'est une collection chez First Edition. Vous connaissez peut-être sur la collection des Pour les nuls. Donc c'est cet éditeur là et donc ça rentre dans la collection des petits livres. Voilà, pour la petite parenthèse.
Du coup, ça me permettra de mieux comprendre un peu plus en profondeur quels sont les différents profils, etc. Mais du coup, je me dis que si, tu vois, comme tu dis, des fois, on part d'une base et puis on évolue autour de ça, un peu comme si, je sais pas, on avait un piquet, une corde, et puis c'est un élastique, du coup, on peut aller un peu dans tous les sens comme on veut et tout, en gardant cette attache quand même. Est-ce qu'il peut arriver que, je sais pas, une personne, elle soit dans un profil, elle soit dans son profil, quoi, et puis qu'à des moments, elle tende un peu vers un autre suite aux conditions de la vie, ou peut-être même un plus gros traumatisme qui pourrait arriver par la suite?
Tout à fait. Alors, en fait, on a tous les profils à nous, on a les 9 profils, mais on aura quand même notre base qui sera toujours présente. On va dire que... Alors, c'est quelque chose qui va être plus sur de la longueur. Par exemple, tu vas éprouver, alors même si ça peut être un peu plus fugace, tu vas éprouver de l'amour pour une personne, c'est quelque chose qui va être sur de la longueur. Par contre, des fois, tu peux adorer cette personne et des fois, tu peux la détester, tu vois, sur du court terme.
Ouais.
C'est ce que je veux dire. Donc, si on prend le profil Enneagramme comme si c'était l'amour de cette personne, c'est un peu ton profil Enneagramme du moment où tu vis jusqu'au moment où tu meurs. Donc, après, ça sera selon les croyances de chacun. Pendant la période de ton profil, il y a des moments où tu vas être en stress, des moments où tu vas être bien, en état de bien-être. Et quand tu vas être en stress, on va remarquer avec l'énéagramme, donc ça justement je le précise sur le bouquin, que en fait tu vas avoir 2 profils sur lesquels tu vas prendre les côtés sombres de l'un de ces deux autres profils. Donc, okay. Un stress, tu vas aller sur d'autres profils. Et quand tu vas être bien, pareil, tu vas être soulagé sur ton stress de ton profil. Et du coup, tu vas aller tendre vers les côtés positifs de l'un de deux autres profils.
Ok.
Et ça, c'est super intéressant. Après, à côté de ça, on a aussi une notion, sans rentrer trop dans la technique, de profil secondaire. C'est-à-dire que pour nous aider dans notre évolution de notre profil, on a également adopté un profil, un des deux profils voisins. Donc, en anagramme, on parle d'un nombre de chiffres de 1 à 9. Mmh. Et si, par exemple, une personne est de profil 7, eh bien, elle peut avoir un profil secondaire qui va être soit son voisin de gauche, le 6, ou soit son voisin de droite, le 8. Okay. Et donc, ça va faire une évolution sur le profil. Donc, tu vas avoir certains 7 qui sont des gens qui sont des joyeux, kiffeurs, qui ont envie de prendre des plaisirs à vie, qui sont toujours en train de déconner. Je suis sûr que tu connais des gens autour de toi comme ça,
et ouais.
On en connaît tous. Et peut-être certains se reconnaîtront là-dedans, mais qui en fait sont dans le kiff. D'ailleurs, c'est intéressant, on pourra le décrire un petit peu plus. Ils sont dans le kiff, dans le plaisir, parce qu'ils ont une peur profonde qui est la souffrance. Et donc, pour éviter la souffrance, ils vont tout faire pour rechercher le plaisir, la joie. Et ça peut sembler être quelque chose de positif, sauf que du coup, à un moment donné, tu fuis les problèmes et tu peux arriver justement à ne pas te confronter. Et sur le 7, on peut en avoir certains qui vont être plus côté du 6, c'est-à-dire qui vont être dans le kiff, dans le plaisir, mais qui vont être très anxieux du futur. Et d'autres qui vont être plutôt dans le 8, c'est-à-dire qui vont être kiffeurs plaisir et qui, à un moment donné, quand on va leur empêcher d'avoir ce qu'ils veulent, eh bien, on va devenir excessif, limite colérique, pour avoir ce qu'ils veulent. Je caricature, mais c'est un peu pour donner comment un profil peut évoluer justement avec cette finesse-là. Quoi.
J'ai hâte de lire ça. Ça me fait un peu penser à. Quand j'avais interviewé Clément Bergon, je m'étais un peu renseigné sur la process communication et tout. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce truc-là avec effectivement une sorte de profil de base et puis après des couches qui ne sont pas toujours les mêmes. Et là, le fait que tu parles de stress et tout, c'est vachement intéressant parce que dans la gestion du temps, il y a pas mal aussi cette notion de stress, cette notion d'équilibre de vie qui est vachement importante. Et ouais, du coup, ça rejoint plein de trucs. J'ai hâte de lire ça.
Pour en venir à ProcessCom, puisque forcément que on s'est formé l'un et l'autre à chacune de nos disciplines, c'est deux outils qui sont très complémentaires, qui sont très très profonds, parce que tu as les outils de profilage de personnalité qui sont très surfaciques, ou parfois avec des bases qui ne sont pas forcément très, très sérieuses, mais sur les deux là, c'est très profond et c'est super intéressant, il y a beaucoup de complémentarité, ouais, tout à fait.
Top. Et du coup, pour rentrer dans, moi, c'est un truc un peu plus technique et terre à terre, c'est du coup, tu as écrit un livre, comment tu as fait, comment ça s'est passé, est-ce que tu avais un process spécifique pour ça qui t'a aidé justement dans la rédaction du livre?
Tout à fait. Alors, c'est venu d'une. En fait, c'est cet éditeur qui m'a contacté un été, justement par mon travail sur le web. C'est là que tu te dis, en fait, ce que je fais. En plus de payer d'un point de vue financier, ça paye aussi sur d'un point de vue de la reconnaissance. Donc ça, c'était cool. Et donc ils m'ont donné le sujet. Donc, c'était déjà prêt. Enfin voilà, c'était déjà clair dès le départ. Et puis après une contrainte de date. Donc en fonction de cette contrainte de date, il a fallu que je programme mon temps d'écriture le mieux possible. Comme pour beaucoup, je m'y suis pris un petit peu tard. Il faut dire qu'aussi, il y a d'autres situations de vie qui ont fait que, eh bien, du coup, j'étais obligé de délayer un petit peu plus sur la partie tardive. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû me concentrer. En fait, j'ai mis tout mon business en off. J'ai fait de façon un petit peu radicale, à part, on va dire, le quotidien, à part les choses récurrentes, tu vois, par exemple, j'écrivais un mail par jour, ce genre de choses-là, donc je continue à le faire. Mais par contre, création de formation, création de vidéos YouTube, tout ça, j'ai tout mis en off. J'ai tout mis en off pendant le temps d'écriture et je me suis focalisé que sur l'écriture du livre. Ça a été le focus principal. À ce moment-là, j'étais au Chili et donc je me suis imposé tous les jours un nombre de mots d'écriture. J'ai commencé par ça. J'avais ma structure, j'ai dit, tous les jours, il faut que j'écrive tant de mots. Et pour moi, ça a été, c'était assez intense, c'était 2000 mots. Bon, après, j'étais habitué à écrire, donc c'est un rythme que je pouvais faire. Et au début, j'ai écrit. J'ai fait 2000 mots, 2000 mots, 2000 mots. Et le but du jeu, c'était d'avancer le plus possible. Et quand je n'avais pas l'inspiration, par exemple, sur un chapitre, eh bien, j'allais sur un autre chapitre du livre pour vraiment pouvoir travailler sur le flow. Ça, c'était super important. Par exemple, le début du livre, je me rappelle toujours, le commencement du livre, c'est la partie, les deux premiers chapitres, ça fait partie c'est le plus important. Et parce que c'est le début, c'est là que tu commences, c'est là où tu vas accrocher ou pas. Et je ne me sentais pas de l'écrire au départ. Donc j'ai commencé à attaquer sur un autre chapitre plus loin. Et une fois que c'était fait, une fois que j'étais rodé, là j'ai pu attaquer le début du livre. Donc j'ai fait tout ça, tout ce premier jet vraiment d'un coup. Et une fois que j'ai fait ce premier jet, donc ça m'a pris de nombreuses semaines, une fois que c'était fait, après je suis revenu et j'ai fait la relecture, réécriture. J'avais laissé des parties de blanc sur lesquelles j'ai retravaillé dessus. J'ai constaté aussi que le temps de travail, c'est un temps de travail où tu es hyper focus. Donc tu ne peux pas faire ça toute la journée,
C'est clair.
même si c'est important. Et en même temps, tu ne peux pas faire ça toute la journée. Et si c'est ton projet prioritaire, tu es obligé de le prioriser dans ta journée. Donc
Mais
moi,
c'est
tous
clair
les
que l'écriture et toute la créativité, bah, tu le vois quand tu écris des
jours.
articles ou des vidéos. Ou... Après, les mails, c'est particulier parce que c'est hyper rapide à faire. Moi, si j'écris tous les jours, c'est vraiment vite vu. Mais le travail créatif, c'est un truc, t'en fais 3-4 heures grand max dans la journée et après, c'est bon, ton
C'est ça.
cerveau, il dit va à la plage, arrête.
C'est exactement ça. Donc du coup, il faut arriver à prévoir ça en priorité parce que si tu le fais, si tu prévois une autre tâche qui demande de l'énergie, eh ben, du coup, tu vas te retrouver, tu vas te cramer en énergie dans la journée. Donc, je ne veux pas dire que je le faisais le matin forcément, mais me dire que quand je n'écrivais pas dès le début de journée, mais j'entamais par une tâche plutôt légère, des tâches plutôt cool, quoi, tu vois. Donc, où j'avais moins d'efforts mentaux à faire. Et après, le cadre aussi. C'est que j'ai beaucoup écrit dans des cafés. Je me suis posé dans les Starbucks, j'avais un café là au Chili que j'adore, une espèce d'espace un peu lounge où j'étais trop bien. Et je me mettais dans ces endroits-là. L'Internet était toujours un petit peu merdique, voire il n'y en avait pas. Et du coup, ça m'obligeait aussi à être pur focus et avec un environnement qui est un environnement agréable. Et j'ai une petite anecdote que j'ai découverte récemment qui est assez hallucinante. Tout dépend des croyances, mais en termes de probabilité, qui est assez hallucinante. En fait, l'énéagramme, c'est quelque chose qui est connu mondialement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fondateur originel de l'énéagramme, qui s'appelle Claudio Naranjo, est d'origine chilienne. Et donc déjà, c'est drôle, moi, de me retrouver dans ce pays-là, parce que c'est pas du tout parce qu'à un moment donné, je suis oh, c'est le créateur d'énéagramme, donc je vais aller au Chili. Non, c'est ma compagne qui est chilienne. Donc du coup, c'est de là que tout s'est fait, pour parler un peu de ma vie perso. Et en fait, donc, j'allais dans ce 2 fois par semaine dans ce fameux café lounge où j'étais bien, où je travaillais. Et récemment, elle a lu un bouquin de l'histoire de Claude Naranjo. Et donc, c'est dans une ville au Chili, pas la ville principale. La ville où je suis, c'est une autre ville, peu de la taille de Montpellier, on va dire. Et en fait, il s'est trouvé que ce gars, Claude Naranjo, a vécu dans cette ville et que il a habité à 2 rues de l'endroit où j'étais en train d'écrire mon livre, dans ce fameux café lounge.
C'est excellent ça.
La probabilité est juste énorme. Quelqu'un m'a dit ça, je me suis dit, putain, c'est ouf, quoi.
Ça va devenir un lieu de pèlerinage pour l'énéagramme. En fait, c'est
C'est
la source de l'inspiration, elle est dans ce coin-là. Alors, il faut y aller.
Mais je suis très heureux de ça aussi, de l'avoir écrit là-bas, ici plutôt, puisque j'y suis là. Pour une simple et bonne raison, c'est que lorsqu'il a parlé d'énagramme, après, il a délivré à ses élèves et il y a des courants de ses élèves qui ont commencé à sortir de l'énagramme, qui sont structurés. Il y en a certains qui ont dépouillé l'énagramme des choses très profondes qu'il avait mises. Donc, lui a été très dégoûté et en même temps, c'est ça qui a fait connaître l'énagramme. Mais qui a fait qu'il y a une partie du savoir, une partie de la connaissance et une partie de la pureté de l'outil qui ont été perdus. Et ça m'a beaucoup énervé pendant très longtemps et c'était vraiment un objectif pour moi de pouvoir remettre ça, remettre cette vérité, comme je te disais lors de ma présentation, je suis chercheur de vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité profonde des choses. C'est ce que j'ai fait sur le livre et sur mes formations notamment, de mettre ça. Et j'étais content, tu vois, de pouvoir revenir à l'endroit d'origine de l'énéagramme pour pouvoir essayer de perpétuer à mon échelle, à ma modeste mesure, le savoir originel de Claudin Alainro. Donc voilà.
Mais d'ailleurs, ça introduit une notion intéressante, l'écriture d'un livre, surtout quand tu es habitué à travailler en ligne, en fait, parce que la notion du temps n'est pas du tout la même.
Ouais.
C'est-à-dire que, tu vois, toi et moi, on écrit un mail, soit on l'écrit la veille pour le lendemain, ou enfin, tu vois, c'est hyper vite fait. Trois jours après, tu as des stats. Là, moi, par exemple, ce matin, j'envoie un sondage. 2 heures après, j'ai déjà une vingtaine de réponses, tu vois. Donc, c'est hyper rapide, ça va vraiment très, très vite. Et par contre, souvent, les entrepreneurs web sont hyper frustrés quand ils écrivent un bouquin parce que justement, ça avance pas et tout. Et ça, c'est un truc que je trouve important, c'est la notion du temps où on a, aujourd'hui, il y a des mouvements un peu de slow life, comment vivre plus lentement parce que les gens se sentent un peu oppressés par le temps qui va toujours plus vite. Qu'est-ce que tu en penses de ça, notamment pour l'écriture de ton livre, mais aussi peut-être de manière plus générale, si tu as un avis à nous partager là-dessus?
Ouais, totalement. Je vais synthétiser, mais j'ai beaucoup de choses à dire. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là parce que ça a suscité mon attention très fortement. Alors pas le slow life, même si je trouve que c'est un très beau mouvement et que et qui mérite d'être qu'on s'y intéresse,
ouais.
Mais plus sur cette notion que je qualifierais de notion d'investissement. C'est-à-dire que effectivement, le web fait qu'on va avoir des infos, des résultats, des statistiques, d'un retour sur investissement même très, très rapide, extrêmement rapide, plus que jamais. Ça, c'est cool. Quand on voit les bouquins style Lean Startup ou ce genre de choses-là, ils préconisent de tester, se crasher le plus rapidement possible pour avancer. Tout ça. Je suis entièrement d'accord sur ça. Et en même temps, on oublie aussi quelque chose de plus fondamental, c'est le long terme. Et le long terme, dans le sens où, si vraiment on veut arriver à pérenniser son activité, eh bien, il faut commencer à changer, à basculer un peu sa vision avec non pas une vision d'entrepreneur, mais une vision d'investisseur. Et donc, se dire qu'à un moment donné, on va faire des choses qui n'auront aucun résultat à court terme, mais qui vont être un investissement sur du long terme. L'exemple, le meilleur exemple pour ça, c'est Jeff Bezos avec Amazon. Ce gars, il a sorti Amazon, il était déficitaire d'Amazon pendant 4 ou 5 ans. Et il a cassé les prix dès le départ sur tout ce qu'il a fait parce qu'il savait que ça allait payer à long terme. Et il en est à un point extrême parce que, dans le sens où il est en train de construire une horloge, je ne sais pas si tu connais l'histoire, il a financé une horloge qui doit durer 10 000 ans.
Ouais, j'ai entendu parler de ce truc-là, ouais.
Et pourquoi 10 000 ans ? Parce que je crois que c'était par rapport au premier bond technologique de l'humanité. Ça correspond à peu près à il y a 10 000 ans. Et donc, dire, voilà, et bien pouvoir regrouper tout ça. Et pour cette horloge-là, c'est super intéressant parce que c'est un projet aussi qui a mis 5 ans, je crois, à être conçu sur papier avant de commencer à la fabriquer. Donc bon, là, ce n'est pas un projet qui a un retour sur investissement financier, mais qui montre cette notion de temps et de longueur. Et si tu regardes ces entrepreneurs-là, Jeff Bezos, donc typiquement, Elon Musk, bon, je ne suis pas super fan, mais qui est inspirant sur certaines qualités d'entrepreneur, et d'autres. Et si on regarde la famille Médicis à l'époque de la Renaissance, je n'ai pas parlé de Renaissance encore sur cette interview, ceux qui me connaissent savent que j'en parle souvent. mais si on regarde en fait la famille Médicis qui est devenue une des familles les plus riches de Florence et du monde à leur époque, qui a couronné des rois, des reines, des papes et autres, à la base, c'est parce que chaque individualité dans cette famille ont pensé en termes de famille et en termes de pérennité de leur œuvre. Et un livre, c'est vraiment ça, pour revenir à l'idée d'un livre, c'est quelque chose qui, quand je me suis lancé à 100%, comme je te disais, que j'ai mis mon activité en off, je l'ai mis en roue libre. Heureusement, ça tournait, mais j'avais quand même l'appréhension, tu vois, que ça baisse un petit peu et tout ça. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai été ravi de pouvoir vivre ça. Mais tu sais que tu le fais parce que ça va payer à terme. Et là, même typiquement, tu vois, ce livre, il n'est pas cher. Il est à 2,99€. Donc, une chose est claire, moi, je vais faire très peu de bénéfices en tant qu'auteur, hein, droit d'auteur sur le bouquin. Par contre, la façon dont je pense ce bouquin, et la façon dont je l'ai écrit, et la façon dont j'ai abordé ça dès le départ, c'était avec une vision qui va sur 5, 10, 20 ans. Et c'est super dur. C'est super dur parce que tu n'as pas les résultats, voire même quand tu as les résultats, tu vois typiquement, là, ça va être compliqué de monitorer factuellement les résultats, mais je sais que ça va payer.
Mais c'est clair que même dans un stade qui est peut-être plus proche de la réalité des gens qui nous écoutent, soit quand ils débutent dans le business ou quand ça fait déjà quelques années qu'on y est, il y a un truc qui peut être hyper frustrant, c'est que en fait, quand tu fais des choix de long terme, tu fais pas un million en un an, en fait. Ça peut être difficile. Le truc, par exemple, en coaching, tu vas refuser des clients parce que tu te dis, bon, bah, je vais pas avoir le temps de leur donner assez et je vais pas pouvoir, en fait, délivrer tellement que les gens vont devenir des fans et donc ça, je veux pas. Et c'est vrai que sur le moment, tu dis, bon, bah, voilà, je balance par la fenêtre 3000 balles, ça fait pas plaisir. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une mentalité de pourquoi tu es là, en fait. Est-ce que tu es là pour 3 ans et faire un coup, ou est-ce que tu es là pour 10 ans pour faire ta carrière? Et c'est aussi pour ça que la notion de philosophe, ça m'intéresse, parce qu'en général, c'est un truc de long terme. Tu vois, le philosophe, ça ne se construit pas comme ça. C'est un truc qui est vraiment ancré dans la personne et elle a des supers idées toute sa vie. Et puis, à la limite, sa meilleure idée, c'est quand elle aura 80 ans, tu vois, qu'elle aura vécu tellement de choses et que ce sera là l'aboutissement. Mais du coup, ça mène à une vision carrément de long terme. Et si tu perds la confiance des gens ou si tu perds de vue ce que tu voulais vraiment au bout de 2-3 ans, c'est un problème. C'est pas comme ça que ça va marcher.
Ouais, tout à fait. C'est très, très juste ce que tu dis. Et c'est bien que tu le précises parce qu'effectivement, quand on voit certaines success stories sur le net, bon, déjà, parfois, il faut pondérer les résultats parce qu'on gratte un peu. C'est pas tout à fait ce qui est annoncé. Donc, ça, c'est bon de dire. Et puis aussi, effectivement, c'est quand tu fais du court terme, tu peux faire des choix qui sont je prends du cash. Mais derrière, je fais mon vendeur de pop-corn ou ce resto dont tout le monde parle. Tu vas dans le resto, tu te dis « putain, c'est dégueulasse, j'y retournerai jamais ». Et certes, le resto a fait un grand moment de hype au départ, mais est-ce qu'il va durer sur du long terme? Il y a peu de chance. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a vraiment à considérer ces voies entrepreneuriales qui sont très différentes. Et effectivement, miser sur du long terme et puis aussi ce point que au départ il faut faire décoller la fusée et comme on dit c'est toujours l'énergie de départ, la fusée pour décoller c'est toute l'énergie à la mettre au départ quoi, après la production elle laisse partir toute seule et ça c'est très très frustrant, c'est clair qu'au début c'est très frustrant hein, quand tu fais des vidéos YouTube que tu as 10 vues dessus, que tu lances un truc, tu as une centaine de personnes par mail et pas plus, c'est super frustrant. Et c'est là justement que c'est une épreuve. Moi, pour moi, je me dis, c'est une épreuve de la vie qui te dit, bon ben voilà, est-ce que tu as suffisamment la niaque, est-ce que tu as suffisamment l'envie, l'énergie, le désir pour aller plus loin?
C'est ça, c'est peut-être un premier test parce que finalement, dans la suite, tu auras les problèmes qui seront certainement pires. Sauf que si tu as réussi à affronter cela, ils vont te sembler peut-être plus simples et puis tu vas réussir à les aborder de manière plus sereine. Quoi.
Totalement.
Toi, je sais que tu t'es intéressé à un moment de ta vie à la gestion du temps, donc c'est rigolo. Je voulais savoir qu'est-ce qui avait déclenché, à quel moment tu t'es dit, tiens, faut que je gère mieux mon temps.
C'est intéressant que tu aies réussi à trouver ça parce que c'est des infos qui sont assez anciennes. Et ouais, même pour la petite anecdote, ma première formation en ligne que j'ai créée, ça s'appelait L'Art de l'efficacité, c'était en 2012. Et typiquement, c'est le type de formation que j'ai sorti et que je n'ai pas revendu plus tard parce que j'étais plus.
Plus aligné avec là où tu en étais.
Il y avait d'autres façons de penser la gestion du temps. Alors, pour répondre à ta question et arrêter de faire mes digressions habituelles, en fait, j'ai commencé quand j'étais encore salarié parce que j'étais un sacré procrastinateur. J'ai un mode de fonctionnement où je suis un kiff au départ, je bosse comme un fou et puis au bout d'un moment, ça me saoule, je m'ennuie et j'arrête. Donc, comme beaucoup de personnes. Mais, donc du coup, je me suis dit, ouais, voilà, il y a plein d'aspects de ma vie sur lesquels je suis un gros procrastinateur. Et des fois, c'était la peur, parce que le mot procrastination est aussi lié à la peur. Ce n'est pas de la paresse, puisque je culpabilisais de rien faire. Et donc, j'ai commencé à travailler en termes d'efficience, d'efficacité. J'ai bouffé plein de systèmes, des GTD, des end to done, des Pareto et tout ça. Et j'ai testé, j'ai éprouvé pas mal de choses pendant des années. Pendant 5 ans de ma vie, j'avais un petit carnet, des petits Moleskine. Tous les jours, je mettais les 3 tâches à faire importantes et les 2-3 tâches secondaires à faire. Tous les jours, tous les jours. Et en 2015, c'était vraiment la base, le fondament de mon système. J'avais une grille sur tous les trucs que je devais faire dans le mois. Et en 2015, j'ai eu un gros changement de vie très confrontant. J'ai dû déménager. Je me suis retrouvé un peu en mode bordel. Et je l'ai oublié. Alors, c'était quelque chose, tu sais, c'était rituelique. Quoi. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus efficace en le faisant plus. Et ce qui était paradoxal. Aujourd'hui, je sais pourquoi. C'est-à-dire que ça, j'étais plus efficace pour moi parce que c'est ce qui était juste par rapport à l'épreuve de vie, l'étape de vie et comment j'interagis avec la vie à ce moment-là. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir besoin de structure. Et s'ils n'ont pas cette structure-là, ils sont perdus. Ouais. Et d'autres personnes vont justement avoir besoin de plus de liberté que de structure. Donc, pour moi, pour en venir à ta question sur l'efficacité, c'est il n'y a pas de, enfin tout marche rien marche, il n'y a pas de modèle idéal. Il y a des modèles et arriver à trouver le modèle qui marche le mieux pour soi. Moi aujourd'hui, je fonctionne sur une vision très long terme. Là, tu vois, par exemple, j'ai une vision entrepreneuriale sur bien 2 ans. Donc là, je sais exactement ce que je vais faire pendant les 2 prochaines années. Et après, je la segmente. Ben voilà, qu'est-ce que j'ai à faire pendant 1 an? Qu'est-ce que j'ai à faire en 6 mois? Et qu'est-ce que j'ai à faire dans 3 mois pour aller faire cette vision idéale? Et donc, du coup, toutes mes actions, tout ce que je fais, j'ai pris une prise de décision qui est factuelle. Est-ce que ça m'amène vers cette direction-là ou pas? Si c'est pas le cas, ça dégage.
C'est vrai que ce que tu soulignes, c'est important parce que c'est un des problèmes de GTD, Pomodoro, etc. C'est que c'est des méthodes qui sont tellement crédibles qu'elles en font oublier tous les principes. Et je pense que c'est un peu le cas aussi dans la connaissance de soi. Et justement, peut-être que l'énéagramme répond à ça. J'en saurais plus en lisant le livre. Mais tous les petits outils, c'est bien, mais ils sont jamais universels. Ouais. Et c'est pas parce que, comme tu racontais, c'est pas parce que ça marche pour une personne qu'elle te raconte comment ça a marché pour elle que ça va marcher pour toi. Si t'as un gars qui est digital nomade en Thaïlande et qui a une méthode, ça va pas marcher pour toi. Forcément, si t'es salarié, tu bosses 80 heures par semaine et puis tu vois pas le soleil de la journée, ça peut pas. Et puis même au niveau des types de personnalités en plus à l'intérieur, ça peut pas marcher de manière universelle.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on en revient au point de base. C'est la question que les personnes qui nous équipent peuvent se poser et qui est totalement légitime. C'est alors, mais qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai pas le temps, j'ai pas une vie pour trouver, pour tester, comme vous l'avez fait, les différentes méthodes. Et donc là, j'en reviens à la clé de base, c'est connaissance de soi. Apprenez à vous connaître et vous saurez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Et là, du coup, tu fais un tri, mais naturel, mais de fou, quoi. Et tu vois, il y a l'autre jour, on m'a montré un truc pour faire une optimisation sur de l'Excel, patati patata. Je dis, oh non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que, je m'en fous. Et deux, je sais que si je le mets en place, ça va être plus anxiogène, plus lourd pour moi que si je ne le mets pas en place. Et ça, c'est parce que je sais ce dont j'ai besoin pour moi. Et donc c'est ça qui permet d'aider et qui permet de trouver aussi le système qui est le plus idéal parce qu'il y a plein de contextes. Tu sais, tu as le fameux Miracle Morning. Je ne sais pas si toi, tu le fais.
Ouais, ça fait partie des méthodes qui me saoulent un petit peu, le Miracle Morning. Déjà, il y a des aberrations scientifiques dans le bouquin. Ça m'embête un petit peu. Ouais. Sur le sommeil notamment. Pouvoir dormir 4 heures par nuit sur le long terme, Je demande à voir une étude sérieuse en fait qui montre que c'est possible, parce que pour l'instant, toutes les études montrent que c'est plutôt 8 heures, enfin entre 7h30 et 9h, hein, c'est la plage qui est la plus couramment donnée. Donc ouais, c'est un peu. Et puis il y a le côté ego aussi qui rentre vachement là-dedans, où tu peux afficher. Alors moi, je vais pas, tu vois, je vais pas me vanter de mettre mon réveil à 9h30 et je dire, regardez, il est
C'est
9h30, je suis
clair.
réveillé, vous vous rendez compte?
C'est clair.
Alors que 5h, 4h30 tout de suite, bah, c'est là, tu dis, ouais, non, moi je fais partie club des gens qui se lèvent tôt, du club des gens qui se donnent les moyens, alors que je connais des millionnaires qui se lèvent à 11h et ça marche très 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 bien pour eux. Voilà, il n'y a pas de. Enfin, mais j'étais un peu coupé
Ouais,
avec les
mais
longs Miracle Morning.
on partage la même vision là sur ça. T'as tout résumé, effectivement. T'as des personnes, les plus grands créatifs, ils faisaient ça la nuit, quoi. On regarde certains grands noms, ils se levaient pas à 5 heures du matin. Il y en avait, ils créaient de minuit jusqu'à 4 heures du mat, quoi.
C'est ça, et c'est là que se connaître son rythme, c'est important. Et moi, je pense qu'au départ, ça passe par un travail de questionnement, justement, pour mieux se connaître. Donc, moi, je parle pas mal de vision, etc., pour vraiment se poser des questions fondamentales et puis se les poser sur le long terme, parce que nos réponses peuvent un petit peu évoluer, puis la vérité peut apparaître avec un petit peu de temps, des fois. Et puis ensuite, au bout d'un moment, il ne faut pas non plus rester dans ce travail uniquement mental pendant trop longtemps. Il faut se mettre à agir, se mettre à tester des choses. Essai, erreur, on en parle souvent. C'est voilà, tu testes la technique Pomodoro, par exemple, tu mets ton chronomètre pour bosser, tu vois si ça t'intéresse ou pas. Tu vois qu'à 25 minutes, par exemple, bah, tu es hyper concentré, puis là, bim, il y a l'alarme, ça ne te plaît pas. Bah, change de méthode, fais autre chose et continue à itérer comme ça. C'est
Très
une méthode pour se connaître qui va être hyper rapide et puis hyper intéressante, parce que non seulement tu mets en place des méthodes qui te permettent d'être plus efficace factuellement, mais en plus, tu vas pouvoir en éliminer certaines, choisir les meilleures, et c'est là que ça va être vraiment intéressant. Comme le développement personnel, je suis certain qu'il y a des gens, l'énéagramme, ça ne va pas leur parler, bah, faites autre
tout à
chose, et puis il y a
fait.
des gens, ça va grave leur parler, bah, faites ça, foncez, tu vois, vous allez kiffer, c'est trop bien.
Ouais, tout à fait. C'est chaque chose pour chaque personne, et puis tout est juste et tout aide, quoi. Et arriver à avoir comment dire, j'ai plus le mot, il est parti. Mais savoir filtrer, voilà. Savoir filtrer cette prise de recul. Cette prise de recul, dire voilà, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, et qu'est-ce que j'en fais, et après, ouais. Et puis se laisser aussi la possibilité de tester des choses qui peuvent sembler un peu contre-productives au départ. Tu vois, moi, j'ai essayé le truc de Miracle Morning. Et bien, en fait, au début, j'étais très content parce que je bossais bien le matin. Mais au bout de 3 semaines, et bien, j'étais pas bien, je manquais de sommeil, je commençais à être plus stressé. C'est bon, on arrête, quoi. On arrête. Donc ouais, c'est se connaître, apprendre à se connaître, et puis après, mais ça demande cette expérimentation-là, comme tu disais, pour Pomodoro, tu testes, tu regardes, c'est OK, c'est pas OK, quoi.
Et ça me fait plaisir que tu parles de stress, justement, parce que tu parlais aussi tout à l'heure de voilà, en 2015, passage difficile, etc. Puis là, en ce moment, c'est vachement d'actualité d'avoir un peu ce contexte où je sais pas, il y a plein de gens, un peu une sorte de coup de mou, un coup de stress, tu vois, où ça peut même arriver à plein de moments différents, une séparation, un déménagement. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer ça. Comment est-ce que toi, tu t'abordes ces moments-là, comment tu gères ces moments où c'est pas facile, en fait, où tu as des bouleversements dans ta vie et tu dois quand même, bah, dans ton cas, continuer à écrire ton mail tous les jours, continuer à maintenir la barque à flot, tu vois, au moins le temps que l'orage passe et puis que tu puisses repartir de plus belle.
J'ai eu une période qui a été extrêmement dure en 2015, et où à un moment donné, je me suis retrouvé où je faisais 2 vidéos par semaine, et je me dis, est-ce que je continue ces 2 vidéos par semaine? Et en fait, j'étais tellement, non, il faut que je le fasse, moi je suis beaucoup dans le il faut, je dois, tu vois. Et en fait, chaque fois que je suis là-dessus, j'arrive à un point où au bout d'un moment, ça pète et je laisse tout tomber. Qui est une très grande frustration. Donc ça, tu vois, ça fait partie de mes points d'amélioration, on va dire. Donc, au regard de ça, au regard de cette expérience-là et de quelque chose que très sincèrement et très honnêtement, je n'ai pas encore véritablement dépassé, je dirais que il y a En fait, effectivement, pour les personnes qui sont comme moi, qui veulent se contraindre corps et âme, même quand c'est difficile, parce qu'il ne faut pas lâcher le rythme, machin, tout ça, je leur dirais souffler un peu, quoi. Souffler un peu et il y a des choses plus prioritaires et des choses plus fondamentales. Donc, c'est déjà voir quelles sont les véritables priorités dans la vie. Quelles sont les véritables priorités. Et comme tout est cycle dans la vie, il y a des moments de galère, il y a des moments heureux, il y a des moments d'épreuve. Et donc, déjà, savoir les accepter et aussi accepter ses émotions. Moi, je crois que c'est les émotions aussi qui sont super importantes. Si à un moment donné, tu n'es pas bien, tu n'es pas heureux, heureuse, que tu sens la tristesse ou du stress ou autre, et que forcément, pour masquer ça ou pour penser à autre chose, on continue à bosser, 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 moi, je dirais, bon, connecte-toi à ça, connecte-toi à la tristesse, à ces moments difficiles, parce que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire et c'est nécessaire aussi d'écouter les souffles de la vie, comme les rythmes des saisons. Enfin, nous, on vit au même rythme que les saisons. Il y a des saisons pour moissonner, des saisons pour récolter et des saisons pour stocker, pour hiberner, pour se retour, pour ralentir le temps. Par exemple, tu vois, l'été, on se lève plus tôt. Naturellement, on a besoin de moins d'heures de sommeil. L'hiver, on a besoin de plus d'heures de sommeil, on est plus fatigué, on a moins d'énergie. Et ça, ces périodes-là qui sont des cycles qui sont reconnus, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces cycles saisonniers, ça a un nom scientifique, eh bien, on a aussi nous-mêmes des cycles dans nos vies, mais par les événements extérieurs. Et après, il y a le stoïcisme, ça m'aide beaucoup. Je suis beaucoup intéressé au stoïcisme ces derniers temps. On en parle beaucoup aussi, notamment avec Ryan Holiday et d'autres choses. C'est un super courant qui aide beaucoup à mieux gérer. Moi, ce qui m'a aidé, alors attends, je vais te la retrouver exactement. On va la trouver. C'est quelque chose qui est lié au stoïcisme, qui s'appelle la prière de la sérénité. Je ne sais pas si tu connais.
Non, je connais pas, mais c'est marrant que tu parles de
Et
ça
oui.
parce que ce matin même, j'ai envoyé un mail. Enfin, ou c'est peut-être celui que j'ai écrit ce matin, du coup, celui qui sera envoyé demain matin. C'est un mail sur justement un peu sur cette question-là, et je parle de du cercle d'influence et du cercle de préoccupation qui vient justement des stoïques et qui est vraiment hyper important pour ces moments de crise, savoir un peu sur quoi je dois concentrer mon attention, qu'est-ce qui va le plus m'aider.
Ouais, et c'est mais tu vas voir cette prière de la sérénité qui est très stoïcienne, je crois que c'est un prêtre qui a écrit ça, qui était très inspiré par ces courants-là. C'est mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Je trouve ça génial. Sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, courage de changer ce que je peux et, on revient à philosophie, sagesse, sagesse d'en connaître la différence.
Ça revient exactement à ce concept de cercle de préoccupation et d'influence. Et c'est vrai que ça fait toute la différence, en fait. Parce que si tu te concentres sur mon Dieu, bah, là en ce moment, mon Dieu, le coronavirus, etc., ça fout tout en l'air, je peux plus aller faire mes courses, je peux plus bosser, etc. Ouais, bon, ok, ça c'est fait. Et puis c'est comme les événements du passé aussi. Il y a des trucs du passé, tu peux pas les changer, tu les as fait. Si tu as fait un mois de merde parce que tu n'as pas bossé, et bah, c'est fait. Tu as déjà pas bossé le mois dernier. Donc, tu ne peux pas retourner dans le temps et retravailler. Donc, maintenant, il faut faire avec, il faut aller de l'avant. Et c'est vrai que moi, ça me permet vraiment de beaucoup plus avancer, vraiment d'aller de l'avant parce que je me dis, bah, ok, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que moi, je peux faire concrètement? Et une fois que je fais ce pour quoi j'ai du contrôle, c'est là que j'ai un vrai impact. Parce que du coup, c'est là que, bah, comme tu le disais, tu accumules une audience qui va t'écouter. Et c'est ça, en fait, en te concentrant chaque jour à faire une vidéo, ce qui est le seul truc que tu contrôles, tu la publies, tu contrôles pas le nombre de gens qui vont la regarder. Mais sauf qu'au fur et à mesure, ça augmente, il y a plein de gens que tu vas pouvoir influencer, il y a ton livre maintenant qui va te permettre d'encore augmenter cet impact-là. Et moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, en te concentrant sur le plus petit truc du monde, c'est la partie que tu peux contrôler, elle grandit. Et puis au final, tu peux changer le monde, bah, un peu à la Elon Musk ou autre, mais chacun à son échelle et en fonction de ses capacités, de ses envies aussi.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et en plus de ça, je pense qu'il faut garder aussi cette chose. Alors, c'est une croyance perso, très forte, mais qui m'aide énormément, c'est faire confiance à la vie et se dire que tout est juste. Mmh. Moi, c'est ce que je me dis, tout est juste. Donc, si on doit vivre quelque chose, c'est qu'on doit le vivre, c'est qu'il y a une leçon derrière, c'est que ça doit apporter. Ou même s'il n'y a pas une leçon, c'est que ça doit être comme ça. Ouais. Et du coup, ça permet de relâcher aussi cette pression qu'on se met, de relâcher aussi cet enjeu et de se dire, je dois aller vers la direction vers laquelle je dois aller. Et parfois, les directions vers lesquelles on doit aller, c'est des trucs sur lesquels même on n'a pas envie. On n'a pas du tout envie. Et finalement, on se retrouve 3, 4, 5 ans en arrière et on se dit, putain, mais en fait, c'était la meilleure chose que j'aurais dû faire de toute ma vie. Heureusement qu'il s'est passé ce truc que je ne voulais pas. Et, ouais. Et ça, c'est difficile dans les situations. C'est pour ça que le mot sérénité est très juste dans cette prière. C'est que dans les moments de difficulté, eh bien, c'est difficile de garder la foi. C'est difficile de se dire, c'est juste. C'est difficile de se dire, ça va amener quelque chose de positif derrière. Mmh. Pourtant, c'est le cas. Enfin, moi, je le crois.
Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Je l'exprime pas exactement de la même manière, mais c'est vraiment, ça aide vraiment à te dire que en fait le bon choix c'est celui que tu fais. Donc à partir de ce moment-là, t'es déjà beaucoup plus serein. Et puis ouais, j'invite les gens à creuser dans cette direction parce que c'est hyper intéressant. Donc là, on arrive aux questions de la fin. Ouais. La première, c'est quelle est la question qu'on te pose jamais et que t'aimerais qu'on te pose plus souvent.
Alors, quelle est la question qu'on ne me pose jamais et que j'aimerais qu'on me pose le plus souvent? Celle que tu m'as posée au départ, hein. Pourquoi tu as repris le skate à presque 40 ans?
J'ai même pas eu la réponse. Mais bon, maintenant, je veux la réponse. Du coup.
Je ne l'ai pas oublié, je n'ai pas fermé la parole. Je ne l'ai pas oublié. Donc, en plus, c'est une bonne question. Pourquoi j'ai repris le skate à 38, j'ai repris l'année dernière. Parce que c'est une passion, parce que c'est quelque chose que j'adore. Et parce qu'à un moment donné, eh bien, je me suis dit comme un idiot que finalement j'étais trop vieux, que j'allais me faire mal, que ceci, cela. Alors j'ai refait tentative, tu vois, en 2011. Je me suis fait un peu mal, donc j'ai dit non, c'est bon, tu arrêtes. 2015, je me suis dit bon, le skate, ça fait mal, allez, on va faire du longboard. Mais ça me fait moins kiffer. Et puis, je suis tombé par hasard, c'était au Chili, justement, en 2018. Et je tombe, je vais dans un skatepark et un gars me prête sa planche de skate et puis je reskate. Il me dit, tu sais, moi, j'ai des potes à moi qui ont repris à 38 ans. Ils sont mariés, ils ont des gamins et tout ça. Et je lui dis, pourquoi tu ne reprends pas? Et je dis, mais ouais, c'est vrai quoi. C'est vrai. Je dis, je n'ai pas à me faire mal et tout ça. Mais à un moment donné, c'est tellement brûlant. Je m'interdisais de jouer à des jeux vidéo de skate et de regarder des vidéos parce que je ne voulais pas. Okay. Et je me suis dit, t'as telle flamme à l'intérieur de toi sur ça que arrête quoi. Et donc j'ai repris et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des skateurs de mon époque qui skataient encore à l'âge de 50-55 ans. J'ai vu un gars de 63 ans qui fait du skate et qui fait des petites figures et tout ça, tu vois, il n'a pas un super niveau mais qui est passionné. Et donc, j'ai découvert, je me suis dit, mais en fait, croyance, tu vois, croyance imitante, quoi. Et je reprends un plaisir, mais tu ne peux pas imaginer. Et ça a été une bonne leçon par rapport à ma relation au temps, ma relation à l'âge. Et donc, ouais, c'est, et aux croyances, et aux limites qu'on se fait. Et je suis plus heureux. Quand je fais skater, je suis plus heureux. Je sors de là, je suis pire.
C'est parfait, alors il faut continuer absolument. La question d'après, c'est relativement lié, même si ce n'est pas tout à fait direct. C'est comment est-ce que tu progresses?
Comment est-ce que je progresse? Je progresse à l'effort, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de progresser. C'est mon mode de fonctionnement par défaut. Je progresse à l'effort, je progresse à la confrontation, je progresse aussi beaucoup en dépassant, en pas en prenant des risques, mais en me confrontant à des choses qui sont nouvelles.
Okay.
Donc voilà, c'est comme ça que je progresse. C'est à la dure, on va dire, je progresse à la dure.
Ok. sur c'est le qui est-ce que je dois inviter pour la prochaine interview comme ça, tu vois, pour parler d'efficacité, mais pas que, tu vois, pour être un peu plus large, comme la conversation qu'on a eue exactement, où on est cool et puis on passe un bon moment, quoi.
Alors, c'est j'aurais plein de monde à te recommander. Je vais pas t'en recommander un, mais je vais t'en recommander deux. C'est mes deux amis avec qui on a un mastermind ensemble. Nicolas Popovic, qui est tu connais peut-être sur l'immobilier, qui est juste exceptionnel, aussi bien humainement que professionnellement. Et Antoine Pétavin, dans le domaine de la formation en ligne, du business en ligne, qui est adorable et qui est brillant aussi.
Ouais, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, très sympa Antoine.
Ouais.
Il faut que je l'invite, j'enverrai un petit message.
ouais, vas-y, tu peux y aller.
maintenant, où est-ce que les gens, enfin, tu vois, les gens qui sont encore là, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Il y a plusieurs endroits et pourquoi à chaque fois, pourquoi ils doivent te retrouver à ces endroits-là particulièrement?
Ouais, alors il y a plein d'endroits où vous pouvez me retrouver. Déjà, il y en a un qui est celui qui est YouTube. YouTube, ouais. Nico Pen sur YouTube. Là, au moment où l'interview sera sortie, j'aurai repris les vidéos. Parce que ça, j'avais mis un petit stand-by là, surtout à la sortie.
Ouais, j'ai vu que ça faisait un moment que tu n'en avais pas refait.
ça va repartir. Là. Ça va repartir et bien. Donc voilà, donc YouTube. Vous pouvez me retrouver également sur un podcast pour ceux qui sont intéressés par le business. J'ai un podcast business qui s'appelle Business de la connaissance. Donc, tout ce qui est la partie business, je la diffuse là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Insta aussi, Instagram. Bon, ça, c'est plus pour les gens qui me suivent, pour ma communauté. Et puis, vous pouvez me retrouver dans toutes les librairies ou sur Amazon avec le petit livre de l'Ennéagramme. Et j'ai aussi un blog, l'Ennéagramme Alchimie, qui est tout jeune et qui a un lien avec la sortie du livre. Et donc, voilà. Donc là, vous pouvez avoir aussi d'autres infos. Et voilà, déjà pas mal, ça fait déjà pas mal de choses.
Voilà, ça fait. Ils pourront te retrouver facilement, peu importe ce qu'ils préfèrent, où est-ce qu'ils préfèrent aller. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui veulent te retrouver, mais qui se disent allez, non, j'en veux encore un peu plus de Nico, dis-nous un truc encore.
Je dis achetez mon livre, tout est dans mon livre. C'est la dernière partie commerciale. Ouais, non, mais ouais, puis on a déjà dit pas mal de choses. Ce que je dirais, c'est vraiment de vivre les choses. On peut partir beaucoup dans l'action, on peut partir beaucoup dans le faire, dans les idées, mais on passe pas suffisamment de temps à vivre ce qu'on vit. Vivre le plaisir d'avoir trouvé une chouette idée, vivre le plaisir d'avoir fait une jolie vidéo, ou d'avoir créé un contenu, ou d'avoir passé un bon moment en famille. Donc vivre, c'est important, on ne le fait pas assez en fait. Et encore moins si on est un
entrepreneur. Merci beaucoup Nico.
Avec grand plaisir.